Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le premier épisode, le tout premier épisode de Playoff 4. Je suis avec Thomas aujourd'hui. Salut Thomas.
Salut, comment ça va?
Mais ça va très bien, je suis très content de te retrouver. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots à ceux qui nous écoutent, c'est quoi Playoff 4?
Alors, Playoff 4, c'est un podcast sur la Jupiler Pro League. On va parler de thèmes d'actualité ou non du championnat belge et analyser et donner nos opinions, etc. Moi, je m'appelle Thomas. Voilà, tu peux te présenter à ton tour.
Eh bien, moi, je m'appelle Nicolas, je suis ton petit frère, du coup, hein, puisqu'il faut préciser à nos auditeurs que nous sommes frères.
Exact.
Et voilà, et on est évidemment des fans inconditionnels de notre Jupiler Pro League adoré. Et voilà, je te propose de commencer tout de suite avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire un premier bilan sur base de ce qu'on a vu du mercato hivernal de nos clubs belges.
Ouais. Voilà, donc on est le 17 février, le mercato est fini depuis 2 semaines. Il y a eu quand même quelques matchs déjà. Donc je pense qu'on peut déjà avoir une idée, une première idée en tout cas, des recrues, de leur niveau et des recrues réussies ou ratées.
Exactement, et pour ça, on a choisi plusieurs catégories pour structurer cette émission, à savoir le transfert qui nous a le plus surpris, qu'il soit entrant ou sortant, le transfert qui nous a le plus impressionné sur base de ses premiers matchs, celui dont on est le plus sceptique. Enfin, on fera le tour des équipes pour savoir quelle est l'équipe qui sort de ce mercato la plus renforcée, celle qui en sort la plus affaiblie, et on finira en concluant et en se demandant si ça redistribue ou non les cartes dans la course au play-off 1, au maintien et au titre. J'ai rien oublié ?
Si, t'as oublié la petite hypothèse de fin d'épisode. Ça, ce sera, je pense, une catégorie qui reviendra à chaque épisode. Voilà, on prendra le temps de faire un petit pari sur la fin de saison.
Exactement, c'est vrai que j'avais oublié. Ben, je te propose de commencer tout de suite avec le transfert ou les transferts qui t'ont le plus surpris durant ce mercato hivernal.
Eh bien, sans surprise, il y a eu le transfert de Salemakers.
Bien sûr.
Qui est surprenant de par sa destination. Déjà, on a tous été un peu étonnés de le voir signer à l'AC Milan. Ben, je pense que c'est super pour le joueur. Du côté d'Anderlecht, c'est pas un secret, ils avaient cruellement besoin d'argent. Maintenant, c'est un petit peu dommage de laisser partir un joueur qui, je pense, n'a jamais vraiment été considéré comme le plus grand joyau d'Anderlecht, mais a déjà fait ses preuves. Il a toujours répondu présent lorsque certains l'enterraient un petit peu par moment. Voilà, 7 millions d'euros, c'est bien, ils en avaient besoin. Mais peut-être que dans une meilleure position, avec une structure financière plus saine, ils auraient pu en demander beaucoup plus ou deux, quoi.
Est-ce que tu penses que Salemakers va réussir au Milan AC?
C'est super compliqué à dire, évidemment. Je pense qu'il a le mental pour. Parce que... On l'a vu au début de saison, compagnie l'enterrait un petit peu, le mettait en tribune à tous les matchs. Et au final, c'est lui qui a libéré Anderlecht avec son but contre le Standard pour leur première victoire. Il est revenu dans l'équipe par la suite. Je trouve qu'il a, sans atteindre un niveau excellent, mais je l'ai toujours trouvé positif et entreprenant. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a porté l'équipe, ce n'est pas le cas, mais... Voilà, j'ai l'impression qu'il a du caractère et qu'il peut s'en sortir dans des situations un petit peu difficiles. Ouais. On sait qu'au Milan AC, c'est pas forcément la situation la plus saine, même s'il y a une petite stabilité qui se crée un petit peu ces derniers temps. Il est rentré 2 fois, je pense, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça, à 2 reprises.
Donc ça prouve qu'on lui fait quand même confiance, que c'est pas juste pour faire le nombre. Après, de là à dire s'il va s'imposer ou pas, c'est compliqué.
Ouais, c'est ça. Moi, je suis un peu plus sceptique que toi, même si je trouve que tes arguments sont assez justes sur sa force mentale. Après, maintenant, sur base de ce qui montrait à Anderlecht ces derniers mois, je reste quand même un peu sceptique. Surtout que, comme tu l'as dit, Milan AC n'est pas non plus le cadre idéal pour s'épanouir quand on a un jeune joueur, je trouve.
Oui. Ouais, voilà, après, je pense qu'il peut nous étonner, mais voilà.
On
J'irai
lui
pas
souhaite
jusqu'à
en
dire
tout cas.
qu'il va réussir à 100%.
On lui souhaite et surtout que si jamais il s'impose, ce serait une bonne nouvelle aussi pour notre équipe nationale.
Ouais, tout, bah oui, à fond, sa polyvalence. Voilà,
Ouais, c'est ça.
ensuite, donc ça m'a un petit peu étonné. Il y a eu, on en a beaucoup parlé, donc je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de revenir dessus, mais les trois offensives du Standard, si on compte Limbombé, qui partent en même temps sans être vraiment remplacées. Ça,
Ouais,
c'est
c'est
un
ça.
petit
Donc,
peu. Ouais.
Limbombé, Mon et Mpoku, hein, c'est ça.
C'est ça. Bon, Limbombé avait pas montré grand-chose, mais je veux dire, numériquement, ça reste une perte. Donc là où au début de saison, le Standard paraissait blindé offensivement, spécialement sur les ailes, d'un coup, ben, ils sont super déforcés, en fait. C'est-à-dire qu'il y a Carcella, Lestienne, Amala et Bojevic, et c'est tout, en fait. Pareil, devant, il n'y a aucune valeur sûre. Bon, après, ils ont dépensé beaucoup d'argent cet été pour Sogulare et Avenatti, donc c'est normal qu'ils leur fassent confiance. Mais n'empêche que dans la course au Playoff 1, c'est quand même un petit peu étonnant de ne pas s'être renforcé. On sait
Ouais, c'est sûr.
qu'ils ont voulu, enfin, la presse dit qu'ils ont voulu, qu'ils sont passés tout près d'Edmilson. Ça aurait été un super coup, je pense. Voilà, ça s'est pas fait. Donc voilà, ça c'est un petit peu étonnant. Même si le départ de Mpoku en soi n'est pas forcément étonnant et qu'un transfert Démon à Nantes, ben c'est un beau cadeau pour lui. Mais
Mais
ce
c'est
qui est plus
plutôt,
étonnant, c'est de ne pas les
pardon.
remplacer, en fait.
Oui, c'est ça, et puis c'est. Enfin, moi, ce qui m'a semblé étonnant, c'est aussi le timing dans cette course au play-off 1.
Ouais.
J'aurais davantage compris qu'ils partent cet été, par exemple.
Oui, c'est ça. Après, bon, j'imagine que les offres étaient sur la table. Le Standard n'est pas en situation financière incroyable non plus. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu. Oui, on sécurise financièrement et puis on se renforcera l'été prochain, comme s'ils avaient un petit peu abandonné.
Ouais.
Après, voilà, ça les empêche pas de faire des bonnes performances comme ce week-end qu'on gagne. Mais voilà.
Exactement. C'est vrai qu'il ressortait un peu que le Standard était vraiment affaibli après ce mercato. Au final, là, ils sortent d'un 4 sur 6 contre Bruges et Genk. Donc, c'est qu'ils avaient quand même en interne de quoi remplacer ceux qui sont partis.
Oui, bah disons que dans la profondeur c'est un peu léger, mais pour l'instant ça marche. Et alors,
Exact.
le dernier, c'est encore un départ, c'est Agui qui part aux Rangers, ça on en avait
Ouais,
déjà parlé
en
entre
prêt
nous,
avec option d'achat.
avec option d'achat, donc c'est super étonnant pour un espoir mondial, enfin en tout cas un espoir européen. En qui Genk avait placé beaucoup d'espoir et avait beaucoup investi, de déjà après 6 mois le laisser tomber, entre guillemets. Je sais que toi, ça t'a pas mal surpris, donc tu peux peut-être en parler un petit peu.
Bah oui, c'est ça, moi c'est aussi le transfert qui m'a le plus surpris et déçu en fait, parce que on en attendait beaucoup de ce garçon, on en avait tellement parlé, il est arrivé pour 4 millions d'euros. Et puis parce que on a un peu le sentiment qu'on lui a pas laissé le temps de s'adapter. J'étais voir les stats, il a joué une seule fois un match complet, c'était dans le derby limbourgeois contre Saint-Tron, où il avait d'ailleurs fait un assist. Et puis, bon, même s'il a déçu, je pense pas qu'il a non plus été exécrable. Donc voilà, c'est un peu un aveu d'échec, mais que je trouve un peu rapide de la part de Genk.
Ouais, je suis totalement d'accord.
Moi, j'avais aussi un autre transfert qui m'a surpris que t'as pas cité, c'est celui d'Anthony Van Den Bor, le retour
Ah oui.
à Anderlecht. Ça, c'est le mot surprenant convient parfaitement. Je dis pas qu'il va pas réussir, mais c'est très surprenant un troisième retour quand on voit sa condition physique actuelle, quand on voit la vision prônée par Anderlecht. C'est un peu étonnant de faire revenir un Van Den Bor, même si Anderlecht ne prend pas beaucoup de risques non plus.
Oui, c'est ça, c'est faire revenir un ancien de la maison qui a connu compagnie. J'imagine que c'est un salaire plancher, j'ai pas d'infos là-dessus, mais j'imagine que c'est vraiment pas beaucoup de risques financiers. Et c'est potentiellement un chouette remplaçant à Murillo dans l'effectif. Donc pourquoi pas? Voilà, c'est pourquoi pas pour encadrer les jeunes, etc. Pour le côté, je sais pas, mentalité Anderlecht, état d'esprit Anderlecht. Je sais pas hein, quelle est vraiment l'idée derrière ça. Mais.
C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, après, dans un noyau qui est déjà très large, est-ce qu'on avait besoin d'un joueur en plus dont on n'a aucune certitude? J'ai un peu de doute quand même, je t'avoue.
Oui, c'est vrai, mais après, à l'arrière droit, ils n'ont pas non plus un milliard de possibilités. Hein. Je pense
Non,
que
non, non.
Lucasen a joué là sans grande, grande réussite. Donc, voilà, honnêtement, je suis aussi sceptique sur sa réussite, mais pourquoi pas?
À voir, à voir. Je te propose d'enchaîner avec les transferts qui nous ont impressionnés sur ce début 2020. Moi, celui qui me vient en tête immédiatement, c'est le transfert de Anderson Niangbo à Gand, qui a directement marqué 2 buts en 2 matchs, je crois. Donc, il vient de Salzbourg, il a été transféré pour 3 millions. Et oui, c'est ça, il a directement impressionné, quoi.
Ouais, tout à fait. Il part pas encore titulaire pour l'instant, malgré les blessures de Ramchuk et de Poitre. C'est Nkilitilina là qui est titulaire pour l'instant, mais en sortie de banc il est d'une efficacité incroyable pour l'instant en tout cas. Donc ouais, c'est potentiellement c'est un beau transfert et ça fait une super profondeur de banc à Genk
Ouais,
qui
c'est ça.
offensivement
À Gand, à Gand.
à Gand pardon offensivement c'est ouais il y a du répondant quoi. Donc c'est vraiment
Ouais,
une belle
c'est ça,
équipe.
parce qu'en plus, c'est une équipe qui nous paraissait déjà complète. Hein. C'est pas l'équipe dont on se disait il faut absolument qu'elle se renforce. Et malgré ça, eh bien, ils vont chercher encore ce qui semble être une belle trouvaille. Un autre profil que ce qu'ils avaient en pointe, un gars un peu plus agile, qui peut en plus aussi jouer sur le flanc. Donc ça, voilà, je trouve que c'est encore la preuve d'une bonne gestion de la part
Ouais.
de la
Puis
Gantoise.
qui a 20 ans, quoi. Ça, c'est
Et qui a 20 ans en plus, ouais, c'est ça.
impressionnant.
Est-ce que toi, c'est aussi le transfert qui t'a le plus impressionné, ou est-ce que tu en avais un autre en tête?
J'en ai deux autres en tête, en fait, qui viennent de me revenir en tête. Déjà, il
Ok.
y a Didion
Oui.
à Genk, qui assure déjà une stabilité derrière à Genk. Ils en avaient besoin. Encore hier, malgré la défaite, il était rassurant. Et c'était un
Ouais.
poste qui tanguait un peu pour Genk. C'était vraiment pas top en ce début de saison. Du
Et
coup,
il a fait un très bon match contre l'Antwerp
ouais, à
en
fond.
semaine aussi.
À fond, mais enfin, depuis qu'il est là, en fait, il prouve, enfin, il montre son assurance. Et c'est assez fou. On se le disait déjà au moment où il est arrivé. Mais aujourd'hui, quand on voit la course au play-off, qui va vraiment être entre Genk, Anderlecht, Malines et Zult. Mais ce que je veux dire, c'est que Genk est en position de force et que Anderlecht a besoin que Genk perde des points. Ça paraît encore plus fou d'avoir prêté Didion là-bas, quoi.
Ouais, ça c'est sûr qu'on aurait même pu le mettre dans la catégorie d'avant, parce que ça reste un transfert assez surprenant
Ouais.
de la part d'Anderlecht en tout cas.
Ouais. Et en tout cas, voilà, c'est un excellent gardien et il fait beaucoup de bien à Genk. Et alors, le petit deuxième, vraiment, je suis sous le charme, c'est Kayembe de Charleroi.
Ah oui, juste.
J'étais déjà content de son arrivée parce qu'on en parle beaucoup depuis quelques années. Bah, il est plus si jeune maintenant, je pense qu'il a 25 ans, mais il était dans la sélection des espoirs belges pendant longtemps. Et voilà, et là, il montre l'étendue de son talent. Hier, contre le Standard, c'était vraiment c'était le meilleur joueur côté Carolo. Et voilà, il
Contre
montre.
l'Antwerp, tu veux dire hier.
Ah oui, pardon, qu'est-ce que je raconte contre l'Antwerp, oui, où ils
Ouais.
font 1-1. Il provoquait sur son flanc, il était intelligent, il revenait bien. Donc vraiment, c'est chouette pour Charleroi d'avoir un joueur comme ça.
Ouais, c'est
Donc très
ça, et puis
très très très, très bonne pioche.
ça permet d'apporter un peu ce qui manquait, à mon sens, à Charleroi, c'est justement une profondeur de banc et des. et et ça pose des problèmes, en fait, des problèmes de luxe à Karim Belhassine.
À fond, là où personnellement je voyais l'effectif un petit peu léger. En fait, Nicholson est en train aussi d'enchaîner les buts. Redzaï, bon, il a moins bien joué hier, mais il porte l'attaque. Donc potentiellement, il y a Fall aussi qui travaille super bien. Donc potentiellement, il y a encore Bruno et Golizadeh derrière. Donc on pourrait se retrouver, par exemple, hier, l'attaque c'était Fall, Nicholson, Redzaï et Kayembe. Bruno était blessé, mais potentiellement il reste Golizadeh et Bruno qui sont sur le banc. Donc c'est cool, quoi.
Ouais, c'est ça. Oui, ça, en plus, avec derrière un Morioka qui est vraiment impressionnant, je trouve, depuis qu'il a été replacé en 8.
Ouais, à fond.
Donc voilà, ça fait une belle équipe qui aura son mot à dire en playoff aussi.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est sérieux, c'est vraiment sérieux, on l'a encore vu hier.
Ouais.
C'est une belle équipe et c'est pas une équipe qui ne fait que bétonner derrière, comme on pourrait le croire. Ça
Ouais, c'est ça.
propose quand même. Voilà.
Au niveau des bons coups aussi, moi j'avais quand même le transfert de Vossen à Zult.
Évidemment.
Parce que même si bon, il a directement impressionné en plantant un doublé contre, je sais plus exactement c'était contre qui, je t'avoue. Mais il a un peu de mal à enchaîner les buts là, mais ça fait des mois qu'il avait plus joué au foot. Il faut, je pense, lui laisser un peu de temps. C'est un transfert définitif, donc il va apporter à Azult dans les années à venir. En plus, il vient gratuitement. Et puis voilà. Et puis Fosun, ça reste une garantie de but, même s'il était peut-être un peu insuffisant pour Bruges et qu'il a jamais pu s'y imposer comme on aurait pu le croire. Pour une équipe comme Zul, c'est un super bon coup, Vossen.
Oui, tout à fait. Son doublé, c'était contre Westland,
Ah, voilà.
quand ils ont gagné 5-0. Bah oui, c'est clair, ça reste un attaquant phare du championnat belge. Déjà, c'est chouette pour lui de voir qu'il va retrouver un peu de temps de jeu. Il a que, entre guillemets, 30 ans, donc il a encore quelques années devant lui. Et je pense que ça peut que marcher à Zult. Ouais, très très bon coup pour les deux parties, quoi.
En plus, ça vient s'ajouter à une équipe qui, offensivement, disposait déjà d'une belle armada avec Lyrine, Berino, Bruno aussi. Donc voilà, vraiment un beau
Ouais.
coup de la part de Zult.
Après, du coup,
Est-ce...
ouais. Non, mais du coup, je me demande juste. En fait, j'ai pas encore eu l'occasion de voir Zult en 2020. Je me demande juste l'impact que peut avoir Berahino sur le flanc. Parce que pour moi, ok, il est rapide, mais c'est pas un joueur de flanc. Pour moi, c'est un joueur d'axe, en fait. Vraiment qui cherche le but. Et d'un autre côté, la complémentarité entre Lerin et Vossen. Ça, j'avoue que ça fait plusieurs matchs qu'il joue comme ça, j'ai pas encore eu l'occasion de voir ce que ça donne, mais ça pose peut-être des questions en termes de complémentarité. Donc à voir.
Oui, peut-être. Après, encore une fois, c'est un problème de luxe, je pense que
Oui, bien sûr.
surtout pour une équipe comme Zult, voilà.
Bien sûr, bien sûr.
Est-ce que tu avais d'autres transferts qui t'ont directement impressionné en tête? Ou est-ce qu'on passe à la prochaine catégorie?
Non, je pense qu'on peut passer.
Eh bah, du coup, allons-y. Quel est le transfert qui, au contraire, sur ces premiers matchs, t'a laissé un petit peu sceptique, toi?
Sur ces premiers matchs, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand ça s'est passé, j'étais très sceptique sur les deux recrues en prêt d'Anderlecht, qui sont
Ouais.
Jovetic et Piaka. Tout simplement parce que, bon, je pense que c'est des joueurs très talentueux. Ils ont quand même certaines réputations. Mais c'est des joueurs totalement à court de forme et qui ne s'inscrivent pas du tout dans un projet à long terme. Donc ça fait vraiment un petit peu les transferts paniques. Qui ont été faits juste quand Salemaker se part, qui a un petit peu d'argent. Du coup, je trouve ça pas fou dans le projet. Maintenant, j'ai quand même un tout petit peu changé d'avis quand j'ai vu Jovetic qui était titulaire hier. Il a bien commencé son match. Après, il s'est un petit peu éteint. Mais on sent qu'il y a quand même une patte. Il y a quand même un truc, en plus il y a une espèce de petite hargne comme ça, c'est un joueur qui a l'air tenace, un petit peu vicieux. Donc en fait je me dis ah, pourquoi pas, sauf que voilà, si Anderlecht n'est pas en playoff 1, je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir ce type de joueur dans l'effectif. Du coup potentiellement c'est pour 4 matchs, parce que, enfin, après peut-être que je me trompe, mais je me dis on est en playoff 2, autant donner du temps de jeu aux jeunes et essayer de déjà préparer la saison prochaine.
Oui,
Voilà. Et
après, il faudra quand même aller chercher cette qualification en Europe si tu es en play-off 2.
oui, bien sûr, bien sûr, c'est vrai. Mais bon, voilà. Et Piaka, du coup, on a un peu eu, on a moins eu de l'occasion de le voir. Il est rentré, mais voilà. J'avoue que c'est le genre de transfert. Que Anderlecht a déjà fait dans le passé et qui se sont souvent avérés au final un petit peu ratés, quoi.
Ouais, c'est sûr. Après, Piaka, moi, j'étais quand même assez emballé dans un premier temps pour le talent que c'est. Enfin, c'était un gros, gros talent. La Juventus avait dépensé beaucoup d'argent, plus de 20 millions, il me semble, pour lui. C'est un gars qui a déjà joué en finale de la Coupe du Monde. Donc,
Ouais, bien sûr.
c'est toujours plaisant de voir des joueurs comme ça en Belgique, mais je te rejoins totalement sur le côté panic boy et manque de cohérence avec le projet. Pour revenir sur Jovetic, Vertonghen en dit vraiment le plus grand bien. Hein. Il a dit que ça se voyait vraiment à l'entraînement qu'il avait le sens du but, que chaque occasion c'était dedans. Malheureusement, il en a raté une grosse hier contre Malines, mais bon, ça c'est peut-être aussi le manque de rythme ou de confiance ou je ne sais quoi. Mais ouais, en tout cas, il va sans doute quand même apporter quelque chose. Et qu'on voit la blessure de Colasin, heureusement tout de même qu'un avant-centre est arrivé.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et bah, je suis d'accord sur ce que tu dis. Ça se voit que c'est un buteur, quoi. Donc voilà, maintenant, au début, j'étais un petit peu sceptique, mais j'ai quand même hâte de voir ce qu'il va donner.
Ouais, c'est ça. Mais écoute, en parlant de buteur, moi, le transfert dont je suis un peu sceptique sur ses premiers matchs, même s'il a montré des bonnes choses, c'est Krmecic, si je prononce bien. Donc le grand tchèque qui s'est déjà fait détester des supporters du Standard et qui est arrivé au club de Bruges cet hiver contre 6 millions et demi quand même. C'est énorme. Surtout quand c'est que Bruges a mis 8 millions sur Okereke cet été, 5 millions sur Redzaï l'été d'avant, mais ça commence à faire beaucoup. L'idée c'était d'avoir un profil un peu à la Laurent Depoitre au club de Bruges, un gars un peu plus physique devant, et c'est vrai que c'est un profil que Bruges n'avait pas, et c'est vrai qu'il va faire du bien au club sans doute. Après, de ce que j'en ai vu, il me semble quand même fort limité techniquement. J'ai l'impression qu'il a un peu de mal à se retourner. Même dans ses duels, au final, il n'est pas si souverain que ça. Il me semble qu'il perd beaucoup de duels, qui s'énerve très vite. On l'a vu contre Zino au Standard. Voilà, il y a tout de même des points positifs. Hein. Évidemment, physiquement, quand il est lancé, il semble dur à arrêter. Il a apporté un but en coupe, non, oui, en coupe contre Zult, hein, le but de Mekelo, c'est quasiment lui qui le met. Maintenant, voilà, c'est pas l'attaquant avec lequel on aurait pu se dire, ben voilà, là, Bruges a une vraie arme pour passer un tour en plus en Europe ou un attaquant qui va apporter le titre à lui tout seul. Et 6 millions et demi, bah, c'est énorme, je trouve.
Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il va vous faire du bien, parce que on peut le dire maintenant que tu es supporter de Bruges.
Oui, exact.
Et il va faire du bien à Bruges, de par son profil qui manquait cruellement. Oui, ça a l'air quand même d'être un bon joueur. Quand tu dis qu'il est limité techniquement, c'est probablement vrai, mais on voit quand même qu'il est. De ce que j'ai vu, il est assez précis dans ses remises. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau des duels, c'est pas glorieux. Alors que moi, dans ma tête, je m'attendais à un attaquant qui fait la loi dans la surface. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Mais il a d'autres qualités. Et on parlait d'attaquant teigneux. Lui, c'est clairement le cas aussi.
Ouais, non,
Donc,
c'est
il va vous
sûr.
faire du bien. Si on pense en termes de rapport qualité-prix, c'est vrai que à voir, à voir.
Ben ça, en fait, moi j'ai un peu peur que Bruges se retrouve dans 6 mois ou un an encore à la recherche d'un attaquant, parce que même s'il a apporté des trucs, c'est pas non plus le grand attaquant, quoi, tu vois.
Ouais,
Et
tout à fait.
on sait que
Ça fait beaucoup.
c'était pas le plan A cet été, c'était Gaïch. Maintenant, ça a quand même ça fait quelques mercatos, 3-4 mercatos qu'il est lié au club. Il est pas venu pour cause de blessure et tout ça, mais du coup, j'imagine qu'il a bien été scouté avant d'arriver, quoi.
Ouais. À voir, à voir. Ça fait quand même beaucoup d'argent sur les attaquants après Redzaï. Ça fait 11 millions, enfin, j'ai pas les chiffres exacts, pour bah, potentiellement, si on suit ce que tu dis, deux attaquants, ok, mais moyens. Donc, ça veut dire potentiellement réinvestir encore. Ah oui, mais il y avait Okereke aussi,
Ok,
qui a
ouais.
coûté de l'argent. Et Diagne, en fait, sont prêts à coûter
3 millions
2-3
d'euros.
millions d'euros. Donc, en fait, oui, ça fait énormément d'argent sur l'attaque pour pas encore d'unanimité sur un gardien.
Ouais, c'est ça. Après, voilà, je pense que Okereke est un cas un peu différent parce qu'il est encore jeune et qu'on a vu qu'il a du potentiel. Je crois
Ouais,
vraiment beaucoup,
tout à
beaucoup
fait.
en lui. Et puis bon, pour finir là-dessus, il y a aussi le fait que ça commence à faire, même dans le noyau, beaucoup d'attaquants à Bruges pour deux places. T'as Denis, Openda, Okereke, Scrivers, Tau, Krejcik. Du coup, t'as De Ketelaere qui est souvent placé là. Il va falloir gérer ça, quoi.
Oui, tout à fait, tout à fait. Après, il y a beaucoup de matchs, hein,
Oui,
encore.
c'est sûr, c'est sûr. Eh bien, je te propose de passer à ce que tu penses être l'équipe qui sort de ce mercato la plus renforcée.
Je pense que c'est Gand
Ouais.
qui a le mieux géré son mercato. Voilà, tout simplement.
Ouais, c'est ça. Moi, j'avais Gant en tête aussi, éventuellement Zult, hein, pour le transfert de
Ouais.
Vossen surtout. Pourquoi pas Charleroi en fait, hein, comme on l'a dit,
Oui.
le transfert de KMB leur a apporté de la profondeur de banc, et puis il y a aussi le transfert de Lazaret qui vient de Peine, qui a pas encore joué si je ne m'abuse, mais duquel on dit le plus grand bien, qui a en tout cas un certain talent et qui d'ici la fin de saison aura certainement sa chance au milieu de terrain.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est bah, ces trois équipes qui ont jusqu'ici eu, enfin, qui ont montré que au moins un des transferts était une réussite. Donc voilà, il n'y a pas une unanimité, je trouve, sur un mercato. Mais bah, Gand, en fait, je dis Gand parce qu'ils sont déjà en bonne position et tout tourne pour le mieux pour eux. Déjà, ils ont rien perdu. Enfin, ce n'est Dylan Brown qui pense ne jouer plus trop. Et ils arrivent encore à se renforcer. Donc c'est pour ça que je dis quand, parce que voilà, ils ont une armada maintenant. Ils ont vraiment des joueurs impressionnants et ils sont en train de tout doucement aller chatouiller Bruges.
Ouais, et tu parles de Bruges, une équipe qui s'est renforcée, c'est le Cercle de Bruges aussi.
Ah
Même
oui.
si, pour être honnête, je serais incapable de te dire le profil de chacune de ces recrues, mais il y a eu beaucoup de recrues, ils ont investi. Et parmi ces recrues, ben, ça joue directement, donc c'est des titulaires. Et dans une course au maintien qui s'annonce plus serrée que prévu. Bah, ça pourrait payer, surtout qu'il y a enfin un peu d'expérience. Ce que Stork réclamait vraiment, il se plaignait que son groupe était beaucoup trop jeune. Mais voilà, là, il a eu les joueurs que lui voulait, que lui a amené. Donc voilà, à voir dans les semaines qui viennent. On y jettera un œil attentif, mais il me semble que c'est aussi une équipe qui s'est renforcée.
Bah oui, il n'y a plus que 3 points de retard sur Aslan, mais je propose qu'on en parle directement. Enfin, on en parlera après, en fait, parce
Ouais,
que,
ouais, ouais.
ouais, on va d'abord parler des équipes les plus affaiblies, avant de se demander si ça change quelque chose
Ouais,
pour
c'est
la
ça.
relégation et pour les playoffs. Hein.
Bah écoute, pour moi, l'équipe la plus affaiblie de ce mercato, c'est quand même Genk, malgré le transfert de Didion. Parce que perdre Berge et Samata, même si c'était attendu, c'est quand même deux joueurs. Au-dessus du lot dans ce championnat, c'est des joueurs qui leur ont rapporté des points. En tout cas, Berge restait très très important. Sa Mata était pas au niveau de l'an passé, mais il a marqué des buts, que ce soit en championnat ou surtout en Ligue des Champions. Donc je pense que cette équipe sort quand même de ce mercato affaibli.
Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je pense que ça devait se faire et ça reste des sommes impressionnantes à l'échelle du championnat belge. Il y a 26 millions, je pense, pour Berge et Samata. J'ai plus le chiffre en tête, mais
C'était une dizaine de millions, je pense.
ouais, voilà, c'est ça. Donc, ça devait se faire au niveau comptable. C'est une superbe opération et ça va peut-être permettre à d'autres joueurs de s'installer et de prendre un petit peu les rênes de l'équipe. Onuachu est bien installé en pointe de l'attaque et je ne vais pas dire qu'il va faire oublier Samata, mais il n'y a pas de manque en tout cas en attaquant en pointe. Ça va peut-être permettre à des joueurs, des autres joueurs offensifs comme Boganda de prendre un peu plus de responsabilité. Au milieu, ben, le Hannes Wolf paraît faire confiance à Wouters pour l'instant. Donc voilà, c'est une page qui se tourne. C'est clairement une grosse perte, mais peut-être que c'était nécessaire pour Genk, pour passer à autre chose.
Oui, ça, je comprends ce que tu dis et oui, je suis plutôt d'accord au final. C'était compliqué de continuer à se baser sur des joueurs qui avaient la tête ailleurs, d'une part, et dont on savait qu'ils allaient très, très, très rapidement partir.
Ouais, tout à fait. Je pense que le Standard, c'est quand même déforcé aussi.
Ouais, bien
Parce
sûr.
que, en tout cas, aujourd'hui, c'est ce que je dirais, même si ils ont l'air plutôt en forme. Mais si on regarde vraiment sur papier, ils perdent trois joueurs, enfin deux joueurs importants, d'autres joueurs qui étaient importants pour le vestiaire, et le plus Lavallée qui n'entre plus dans les plans après avoir signé à Mayence. Du coup, et tout ça pour un transfert, Eden Shamir, qui pour l'instant n'a clairement pas prouvé qu'il avait le niveau, même si, voilà, il faut clairement pas l'enterrer, mais
Il y
sur
a
papier, voilà,
le
je
transfert
pense que.
de Sissako aussi quand même.
Oui, mais on sait pas ce qu'il vaut, et pour l'instant, il n'a pas eu voix au chapitre,
Ouais, non, c'est vrai.
et voilà. Je pense pas qu'il aura énormément voix au chapitre vu l'axe central de la défense qui paraît indéboulonnable.
Bah oui, écoute, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment les deux équipes que j'avais notées, Genk et le Standard. Les deux équipes les plus affaiblies.
Ouais, voilà. On est d'accord là-dessus.
Bah du coup voilà, on peut passer à cette conclusion. Est-ce que ce mercato d'hiver redistribue vraiment les cartes dans les différentes courses qui occupent notre championnat? On peut commencer par la course au play-off 1, celle dont on parle le plus. Est-ce que le
Ouais.
mercato d'hiver aura un vrai impact sur cette course au play-off 1?
Bah c'est dur à dire. Le mercato d'hiver en soi, je ne sais pas. Je pense pas que ça redistribue vraiment les cartes. Mais ça veut pas dire que le classement va pas bouger. Jusqu'au bout, ça va être dur. Genk, je pense, joue contre l'Antwerp au prochain match.
Je
Ah
pense
non, contre
qu'il...
Courtrai,
Ouais,
puis il
contre
fait
Courtrai.
Courtrai, il faut Courtrai puis Bruges. Malines, je regarde vite. Malines a un calendrier très facile avec Oost-Andeveren, Saint-Trond et Eupen avant d'avoir peut-être le choc de la 30e journée Genk-Malines. Donc, et derrière il y a Zult et Anderlecht. Donc rien n'est joué vraiment. C'est très dur. Je pense que Anderlecht n'est pas encore enterré, contrairement à ce qu'on entend dans les médias. Ça peut encore, ils peuvent encore le faire. Mais voilà.
Si toi tu devais mettre une pièce sur le sixième qualifié pour le playoff, tu miserais sur qui?
Mais comme ça, je dirais Genk. Mais parce que malgré la défaite d'hier, ils ont vraiment pas très bien joué hier. Mais ils avaient l'air de se relever un petit peu. Mais en fait, leur calendrier, du coup, ils vont à Courtrai. C'est toujours difficile. Ils reçoivent Bruges. Ensuite, il y aura Ostende qui se battra peut-être contre la relégation. Et ensuite, Malines. Donc, ils peuvent perdre des points quand même. Alors, Malines a un calendrier facile, mais paraît un petit peu en perte de vitesse.
Après,
Zulte.
sur le match de
Ouais.
hier, j'ai trouvé Malines plutôt impressionnant contre Anderlecht,
Oui,
même
mais
si
bon,
c'était à 11
ils
contre
ont.
10, évidemment.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça.
Mais oui, bon. Avant ça, c'était 0 sur 12 en 2020.
Oui, c'est ça.
Ouais.
C'est ça. Pour Zulte, je pense que ça va être un petit peu dur. Ils vont à Anderlecht et ils reçoivent le Standard pour les 2 dernières journées. Ils reçoivent Courtrai aussi. Je pense que. Enfin, Zulte, j'y crois pas trop. C'est compliqué, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu dirais, toi?
Mais c'est oui, c'est très très difficile. Je pense que tout reste ouvert. Je vais pas enterrer Anderlecht, mais je sais pas. Moi, j'ai quand même un peu de mal à y croire parce qu'Anderlecht est bon contre les gros, mais a toujours montré cette année un peu plus de difficultés contre les petits, avec beaucoup de matchs nuls. Même si
Oui,
ça va mieux et on
bon.
sent que l'équipe elle prend forme et tout ça, hein, mais.
Ouais, ça va mieux. Les deux petits, par exemple, c'est Cercle et Moucron. Ils font 6 sur 6 avant d'aller faire un match nul à Gand. Et là, ils jouent vraiment. Ils jouent Eupen, Waasland, Zulte et Saint-Trond. Le calendrier, il est facile.
Ouais.
Potentiellement, c'est un 12 sur 12, en fait. Si
C'est
les choses tournent un
vrai.
peu à leur avantage, c'est un 12 sur 12.
C'est vrai, mais j'ai du mal à imaginer, avec tout ce qui s'est passé cette saison, j'ai du mal à imaginer Anderlecht faire un 12 sur 12. Enfin,
C'est vrai
ça me
aussi.
paraît compliqué, mais bien sûr, ils sont pas du tout enterrés, même si la défaite de ce week-end fait très mal, je pense.
Bah oui, c'est clair.
Ils sont pas enterrés. Genk a les cartes en main, évidemment, et peut même se permettre une défaite.
En
Enfin,
fonction de ma ligne, ouais.
en fonction de Malines. Le dernier match, c'est à Genk. Genk Malines.
Le dernier match, c'est à Genk, oui.
Ouais, ok. Ouais, non, c'est très compliqué de se prononcer. Si je devais mettre une petite pièce, je la mettrais quand même sur Genk.
Ouais. C'est quand même, enfin, Genk a perdu des points pendant toute l'année aussi et ne paraît pas aller beaucoup mieux. Ouais, pour moi, ça va jouer entre Genk et Anderlecht, en fait.
Oui, ça va. Mais
Malines a vraiment enchaîné les défaites. Je crois qu'ils étaient à 5 défaites d'affilée avant 4 ou 5 défaites d'affilée avant Anderlecht. Ouais, pour moi, c'est le jeu entre Genk et Anderlecht.
Ouais.
Et j'y crois encore pour Anderlecht, en tout cas. Je pense que c'est possible pour eux.
Après,
Ouais.
ouais, c'est ça. Je pense que en tout cas, on peut mettre Zulte de côté, selon moi.
Je pense aussi. Ouais.
Et voilà, Genk, Anderlecht, Malines, pourquoi pas. À voir, à voir. C'est vrai que là, on ne se mouille pas beaucoup.
Ouais.
Dans la course au maintien, par contre, est-ce que tu pourrais un peu plus te mouiller?
Moi, je pense que le cercle va se maintenir. Voilà.
Ok.
Ça, c'est mon pronostic.
Et ben moi aussi.
Mais là, je t'avoue que j'ai pas du tout regardé les calendriers. Je vais le faire
Mais je
maintenant.
les ai sous les yeux, si tu veux.
Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont. Ouais.
Donc, les trois équipes concernées, elles se tiennent en 4 points. T'as le Cercle avec 17 points, Westland 20, Ostend 21. Le Cercle va à Mouscron, reçoit Gand, va au Club de Bruges, ce qui pourrait être un derby assez spécial. Et puis, reçoit Ostend, un match aussi très intéressant pour finir la saison. Ostend reçoit Zulte, va à l'Antwerp, reçoit Genk et va donc au Cercle. Et enfin, Westland va à Malines, reçoit Anderlecht, va à Mouscron et reçoit Gand. Donc en fait, les trois équipes ont des calendriers très très compliqués.
Ben, c'est ça. Mais pour moi, vu la forme ascendante du cercle, je vois Westland descendre. Parce que déjà, Westland est capable d'aller grappiller des points à gauche, à droite. Westland aussi, mais Westland a quand même l'air dans une forme un peu chaotique.
Ouais.
Non, moi, je vois Westland descendre.
Ouais, c'est ça. Westland, bah, qui a perdu un précieux point à la dernière seconde hier contre le club de Bruges. Mais qui concrètement n'a pas montré grand-chose, en tout cas dans le jeu offensif. Si ce n'est quelques contre-attaques intéressantes, pardon. Mais oui, moi, au vu du calendrier, je vois Westland descendre, en fait. Parce qu'à part contre Boucro, en fait, je les vois pas prendre des points. Ils vont aller à Malines et jouer contre Andorre qui sera en pleine course pour les playoffs 1. Ils vont recevoir Gand qui, ben voilà, qui est une excellente équipe, plutôt en forme. Donc, non, moi si je devais mettre une pièce là, je mettrais Westland qui descend et ce serait un fameux pari réussi pour Bernstorff et le cercle.
Oui, tout à fait. Après, je pense que encore une fois, tout peut être, comme pour les playoffs 1, tout va peut-être se décider à la dernière journée, entre le cercle et Ostend. Ça va peut-être être 3 points qui vont être décisifs pour le cercle.
Ouais.
Voilà.
Ouais, c'est ça. Attention au match Club Bruges-Cercle, puisque dans cette même journée, il y a Westland qui ira à Mouscron. Et je pense que oui, je pense que ça tiendra. Enfin, je pense que le club se fera un malin plaisir à être l'équipe qui fait descendre son rival.
Ouais, peut-être. À voir.
Donc il
Ostend n'est pas
faudra.
attiré d'affaire non plus, hein, parce que ils ont un calendrier qui, je le vois, prendre des points nulle part, en fait.
Mais il y a cette petite
Et
marge quand même, hein, parce qu'ils ont 4 points d'avance.
oui, c'est ça.
Mais voilà, mais en tout cas, si on regarde la forme récente, le cercle est sur un 6 sur 6. Avant ça, ils avaient fait un excellent match contre Anderlecht où ils méritaient mieux. Clairement, en 2020, depuis le mercato hivernal, ça va beaucoup mieux pour le cercle.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour conclure cet épisode, je te propose comment je pourrais expliquer ça, de faire un petit pari, une petite hypothèse sur la fin de ce championnat belge. Tu vas nous annoncer quelque chose qui est ou pas surprenant. Ça peut être X va être champion, X va être relégué, X va finir meilleur buteur. Tout ce que tu veux.
Ouais, bah en fait justement bah c'était ça mon hypothèse, mais du coup elle est pas si folle apparemment vu que t'es d'accord avec moi, c'est que le cercle ne descende pas cette année.
Ok.
Voilà.
Ouais, ça reste, bon, je dirais pas que c'est fou, mais ça reste un pari quand même, parce que il y a un mois, on n'aurait jamais dit ça.
Exactement.
Enfin, en tout cas, moi, j'aurais dit le cercle est enterré. Donc,
Ouais.
voilà. De mon côté, c'est un petit peu plus risqué, mais je pense que l'Antwerp va s'écrouler dans ses playoffs 1.
D'accord. Et qu'est-ce qui te
Voilà.
fait dire ça?
Leur forme actuelle, là ils font 1 sur 9. On sent des petites tensions, notamment Rodriguez qui est furieux à la sortie. Bon, ça après, ça arrive
Ouais.
souvent à l'Antwerp, ça fait aussi un peu partie de leur signature. Alam Kelze qui est depuis quelques semaines absolument pas décisif et pas bon. Mbokani qui est dans une mauvaise passe aussi.
Et puis,
Défense qui n'est. Ouais.
Lame Kelze qui est critiqué par ses coéquipiers. On se rappelle après le match contre Bruges, il y a une caméra qui a su capter des images de Wesley Hoot qui disait ben voilà, lui il veut parler sur Instagram et puis il fait rien sur le terrain. Ça commence à bien faire quoi.
C'est ça. C'est ça. L'ambiance n'a pas l'air au top. Mais maintenant, ça, je pense que ça veut un peu rien dire dans le cas de l'Antwerp, parce que ça a pu faire leur force, en fait, aussi, par moments, des gros caractères qui parfois se tapent, entre guillemets, pour mieux jouer ensemble la semaine d'après. Mais voilà, une accumulation de petites choses. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en bout de course et qu'ils sont sur une pente descendante. Ils vont un petit peu s'essouffler d'ici la fin de saison.
Et par s'essouffler, est-ce que t'entends qu'il ne serait même pas européen?
C'est possible, oui.
D'accord.
C'est possible. Après, il y a la finale de coupe encore.
Ouais.
Bah ouais, il faut vraiment être sixième pour pas être européen.
Non, parce que si t'es cinquième et que tu perds la finale des playoffs 2 contre
Oui, c'est ça,
Genk
c'est
ou
ça.
Anderlecht, éventuellement, c'est faisable quand même. Hein. Je pense que
Ouais, je
si.
les vois. Ouais.
Pardon, s'il y a bien une année où le cinquième est pas sûr d'être européen, c'est bien cette année, je crois.
Ouais, tout à fait. Je les vois peut-être pas sixième, quoique. Mais je les vois. En tout cas, je les vois pas rester quatrième. Après avoir, ça dépend contre qui il joue en finale des playoffs là. Mais en tout cas, je les vois moins impressionnants que ce qu'ils ont été jusqu'ici.
Ok, ben c'est intéressant comme hypothèse. On a hâte de voir si ça se vérifiera. Eh bien, je pense que c'est ce qui conclut ce premier épisode de Playoff 4.
Tout à fait, on est à 45 minutes, donc ça va, on est dans les temps.
Exactement. Merci pour tes analyses pertinentes, Thomas.
Merci à toi.
On se retrouve la semaine prochaine, puisqu'on va essayer de faire ça une fois par semaine. N'hésitez pas à partager ce podcast, et surtout à nous donner votre avis, à nous dire ce que vous pensez de ce mercato hivernal. On vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Playoff 4.